Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et de 4, la France s'apprête à vivre aujourd'hui une quatrième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites à l'appel de plusieurs syndicats dans un bras de fer avec l'exécutif qui dure depuis plus d'un mois maintenant et dont semble étrangement exclu les partis d'opposition.
Un incendie serait-il à l'origine du crash du Boeing 737 hier à Téhéran qui a provoqué la mort de 176 personnes majoritairement irano-canadiennes?
C'est ce qui pourrait ressortir des premiers éléments de l'enquête. Seule certitude, il semble que l'appareil avait fait demi-tour après avoir constaté un problème à bord. Le président américain Donald Trump a finalement joué hier la carte de l'apaisement après les tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak, éloignant donc pour l'heure le spectre d'une escalade, même si la tension reste palpable et de nombreuses questions en suspens. Enfin, comme chaque jeudi jusqu'aux élections municipales, nous dressons le portrait d'une ville, aujourd'hui direction Bordeaux, avec notre invité Vincent Tibéri, professeur des universités, délégué de recherche de Sciences Po Bordeaux. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La société d'exposition, c'est le titre du nouvel essai de notre invité Bernard Harcourt. Il est professeur de philosophie politique américain, désir et désobéissance à l'ère numérique. Il va nous faire un portrait quand même assez cruel et redoutable de la société, de la surveillance dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais on va aussi tenter d'esquisser quelques pistes pour tenter de contourner ces nouvelles conditions avec notre invité dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Si selon la formule consacrée, il faut savoir terminer une grève, à l'évidence pour les opposants à la réforme des retraites, lesquels gardent encore en mémoire l'intégralité de la citation « Dès que la satisfaction a été obtenue, eh bien le compte n'y est toujours pas ». C'est ainsi qu'au 36e jour du mouvement, ce jeudi marque également donc la 4e journée interprofessionnelle de grève et de manifestation. Une journée test évidemment pour les syndicats qui espèrent relancer la mobilisation. À l'heure où, à en croire le dernier sondage Odoxa, 57% des Françaises interrogées appelleraient désormais à cesser le mouvement de grève. Tous les regards seront donc portés sur l'ampleur de la mobilisation. Depuis le 5 décembre dernier, premier jour du mouvement, où selon le ministère de l'Intérieur, 800 000 personnes avaient battu le pavé, et même 1,8 million selon la CGT, jamais un tel score n'a pu être égalé. Alors la manifestation à Paris débutera à 13h30, mais ce matin déjà plusieurs cortèges se sont ébranlés un peu partout en France. C'est le cas notamment à Lyon, où notre correspondant Christophe Vincent est allé à la rencontre des manifestants.
Les fêtes ont joué, le cortège est moins dense, ce que regrette Christine, agent du ministère des Finances.
J'espère qu'ils vont arriver, ça serait bien, ça serait de bon ton me semble-t-il. Parce que cette histoire-là, elle est embarquée pour les 50 ans à venir, quoi. Il faut qu'ils revoient complètement leur copie, là, ils ont tout faux, hein. Ils ont tout faux. Et moi j'ai l'impression que c'est surtout fait pour alimenter les fonds privés, quoi. On va droit dans le mur. Hein.
La CFDT est absente, la CGT est en force et elle ne s'arrête pas à l'âge pivot. Christian, retraité EDF, veut un retrait total de la réforme.
C'est le blocage, il ne veut pas revenir à 62 ans, donc on reste à 64 ans. On va manifester jusqu'au bout, tant qu'on pourra. Puisqu'il lâche tout doucement pour la police, pour plein de choses, quoi. Il a lâché, là. Depuis 15 jours, c'est bon, mais pas nous. Toujours pas pour les retraités.
On croise aussi de nombreux gilets jaunes, comme Nadia, aide-soignante en EHPAD.
Les cheminots ne lâcheront pas, nous les gilets jaunes encore moins, pour dire au gouvernement stop, maintenant il faut nous écouter, on est dans la rue depuis longtemps, et il faut qu'ils nous écoutent. Point.
Le cortège doit s'arrêter place Bellecour, le centre commerçant lui est interdit, encore plus en raison des soldes.
Reportage à Lyon signé Christophe Vincent. Alors comme on vient de l'entendre s'agissant de ce dossier des retraites, l'intersyndicale campe toujours sur sa position de retrait pure et simple du texte. De son côté, l'exécutif lui espère encore amadouer la CFDT, favorable au principe d'un système universel par points, mais braqué sur l'âge pivot à 64 ans en début de semaine. Édouard Philippe a d'ailleurs tendu la main à Laurent Berger en proposant une conférence de financement suggérée par le leader CDTIS. Le Premier ministre a même invité les partenaires sociaux demain pour discuter à la fois du mandat donc de cette conférence, mais aussi du délai qui lui sera accordé pour trouver des solutions. Ce qui n'empêche pas pour autant la CFDT de maintenir la tension, puisque le premier syndicat français a lancé une pétition en début de semaine contre l'âge pivot et prévoit par ailleurs des rassemblements dès samedi lors de la 5e journée de mobilisation. Quoi qu'il en soit, on le voit, le bras de fer qui se joue aujourd'hui continue donc d'opposer l'exécutif d'un côté et puis les syndicats de l'autre. En revanche, les partis d'opposition, eux, semblent étrangement et assez largement absents du débat. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer que dans cette France en colère depuis la crise des Gilets jaunes, démarrée en novembre 2017 et jusqu'à cette mobilisation contre la réforme des retraites qui continue d'affecter le pays en ce début d'année 2020, les partis d'opposition de droite comme de gauche ne parviennent pas visiblement à mobiliser.
Alors à ceux qui annonçaient la fin du syndicalisme de l'ancien monde il y a un peu plus d'un an, force est de constater aujourd'hui que les représentants syndicaux occupent le devant de la scène médiatique, reléguant en arrière-plan les forces politiques traditionnelles qui essayent tant bien que mal d'engager la bataille de l'opinion. Chez les Républicains, il a fallu attendre ce début d'année pour une première offensive groupée, l'organisation d'un débat parlementaire. C'était mardi soir pour mettre sur le grill le nouveau monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski. Mais ces échanges n'ont reçu que peu d'écho médiatique. Pas davantage hier matin lors de la présentation d'un contre-projet chiffré autour de ce qui est un marqueur chez les Républicains, le report à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. À gauche, mi-décembre, il y a bien eu une tentative de rassemblement initiée par le Parti communiste, le temps d'un meeting. Unitaire, PS, NPA, Lutte ouvrière, La France insoumise, Europe écologie les Verts se sont retrouvés autour d'une revendication commune, le retrait de la réforme. Mais si la photo de famille était porteuse d'espoir, la suite a montré qu'il était bien difficile de parler d'une seule voix, ce qui n'empêchera pas les partis de gauche, hors France Insoumise, de présenter un contre-projet d'ici le 24 janvier, c'est-à-dire avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Sur cette question, eh bien, le Rassemblement national est sur un fil. Il affiche à la fois une opposition au projet de réforme des retraites, tout en soutenant le mouvement de contestation dans la rue, sans pour autant donner quitus aux organisations syndicales qui paralysent les transports et l'activité économique. Bref, au-delà de cette réforme des retraites, les oppositions ont au moins trouvé un dénominateur commun, le président de la République Emmanuel Macron, sa politique et sa méthode, mais cela ne fait pas un programme.
Merci Pierre Neveu. Et puis pour clore ce chapitre retraite, je précise que la SNCF appelle les franciliens à éviter les trains de banlieue aujourd'hui. Le groupe ferroviaire prévoit 60% des TGV en circulation, 40% des TER, un tiers des transiliens, idem à la RATP avec un trafic là aussi fortement perturbé. Pour sa part, la Direction Générale de l'Aviation Civile anticipe des retards possibles dans l'aérien. Enfin, en dehors des transports, cette fois-ci les grèves se poursuivent dans d'autres secteurs, notamment chez les avocats, dans les raffineries, ainsi que dans l'éducation nationale. Parce que le traumatisme est toujours vivace, mais aussi parce que les attentats de janvier 2015 resteront à jamais dans les mémoires comme le point de bascule vers une ère d'attaques djihadistes sans précédent en France, dont la dernière victime d'ailleurs est encore décédée vendredi dernier après une attaque au couteau à Villejuif. Les cérémonies du souvenir se poursuivent aujourd'hui. Un rassemblement à l'appel du CRIF est prévu ce soir au 23 avenue de la Porte de Vincennes, c'est-à-dire à l'endroit même où il y a 5 ans, jour pour jour, et après plus de 4 heures de prise d'otage dans le magasin hyper cachère, 4 personnes avaient trouvé la mort. Et si beaucoup se demandent, 5 ans après, donc, si l'esprit Charlie de cette année 2015 demeure encore aujourd'hui, il est un fait, lui, assez notable. C'est de constater combien l'image des forces de l'ordre, autrefois acclamées, remerciées et même portées en héros, a, elle, totalement changé. Elle s'est même, en l'occurrence, inversée. Évidemment, la crise des Gilets jaunes démarrée en 2018 et non pas en 2017, comme je viens de le dire, et ses nombreuses controverses sur les violences policières est passée par là. Et puis c'est encore le cas cette semaine, avec cette fois-ci la mort d'un homme survenu non pas lors d'une manifestation, mais à l'occasion d'un banal contrôle routier. Cédric Chouvia, victime d'une asphyxie avec fracture du larynx, après avoir été plaqué au sol par des policiers. Hier soir, une centaine de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour lui rendre un dernier hommage, tout en dénonçant les conditions de son interpellation. Enfin, ce matin, le défenseur des droits a lui décidé de se saisir d'office pour se pencher sur les circonstances donc de ce décès. Lui était décédé le 26 octobre 2014. Lui, c'est Rémi Fraisse, militant écologiste de 21 ans, victime lors de violents affrontements sur le chantier du barrage de Sivens d'une grenade offensive, d'ailleurs aujourd'hui interdite. Aujourd'hui à Toulouse, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu accordée aux gendarmes qui avait lancé la grenade mortelle. Si l'enfer est encore aujourd'hui circonscrit sur une île, celle-ci n'en conserve pas moins les dimensions d'un véritable continent, preuve de l'ampleur du désastre. En Australie, les gigantesques feux de forêt qui ravagent le pays ont déjà réduit en cendres entre 6 et 8 millions d'hectares, soit la superficie de l'Irlande ou de deux fois celle de la Belgique. Outre les dizaines de morts et autres disparus, la faune paye elle aussi un lourd tribut dans un communiqué publié en début de semaine. Une étude d'un professeur de l'université de Sydney révélait qu'un milliard d'animaux avaient péri dans le brasier, et parce que les dromadaires sauvages réputés pour leur sobriété, mais aujourd'hui poussés vers les points d'eau, représentent une menace pour les hommes. L'autorisation a même été donnée d'abattre 10 000 camélidés grâce à des snipers qui survoleront les troupeaux en hélicoptère. Enfin, en dépit d'un répit relatif en début de semaine, à la faveur d'une baisse des températures et de quelques précipitations, les autorités ont prolongé l'état de catastrophe naturelle en raison des fortes températures attendues ce vendredi et qui risquent d'attiser les incendies. Ce matin, conformément à l'aide proposée par la France, 5 experts missionnés par le ministère de l'Intérieur ont par ailleurs atterri dans la capitale, Canberra. Ces pompiers doivent proposer un accompagnement aux autorités australiennes sur, par exemple, les stratégies de lutte aérienne, mais aussi de lutte préventive contre les incendies. Notre envoyé spécial, Gaël Joly, a pu les rencontrer.
Ils insistent, ils viennent ici en toute humilité. Dans sa tenue de sapeur-pompier, le lieutenant-colonel Nicolas Coste arrive du Gard. Il est spécialisé dans la pratique des feux tactiques.
Le principe consiste en fait à supprimer du combustible face à un incendie qui se propage en allumant des feux que l'on contrôle. Bien évidemment, l'incendie, lorsqu'il atteint cette zone-là, peut s'arrêter de lui-même tout seul. Si on peut apporter un petit appui dans ce domaine-là, même si petit qu'il puisse être, c'est très important. Et on essaiera de faire des actions ponctuelles à leur côté.
Pour le chef de mission, le colonel Bruno Uliac de la sécurité civile, la France a de l'expertise à offrir même aux impressionnants soldats du feu australien.
On a dans cette équipe des gens qui ont une grande expérience du feu de forêt, qui sont originaires des départements du Sud et qui ont géré des énormes opérations. Les pompiers australiens ont fait un travail remarquable et nous on vient surtout pour voir comment on peut les aider. On a une équipe ici qui est pluridisciplinaire dans le domaine du feu de forêt. On n'est malheureusement pas à la fin de cette saison feu de forêt. Il est possible que ça s'aggrave, que ça continue et on pourrait être appelé à leur apporter une aide avec des personnels qui viendraient de métropole.
Une centaine de pompiers pourraient, selon le gouvernement, faire le voyage ces prochaines semaines si l'Australie en fait la demande.
Bien que fugitif en cavale visé par un avis de recherche d'Interpol, c'est d'abord en victime et même en juge que Carlos Ghosn s'est défendu hier à Beyrouth dans un long réquisitoire pour sa première apparition publique depuis sa spectaculaire évasion du Japon. L'ex-PDG de Renault Nissan, visé par plusieurs procédures judiciaires, a dénoncé un coup monté sans pour autant lever les doutes sur sa culpabilité. Tout juste, l'ex-magnat de l'automobile s'est-il contenté d'expliquer qu'il n'avait pas fui la justice mais échappé à l'injustice et la persécution, d'où la réaction ce matin de la ministre japonaise de la justice qui, dans une rare offensive publique, a jugé les accusations de Carlos Ghosn à l'encontre du système judiciaire nippon absolument intolérable, avant d'ajouter que sa fuite pouvait à elle seule constituer un crime qui ne serait toléré par aucune nation. Toujours est-il que la justice libanaise a, pour sa part, interdit ce matin à Carlos Ghosn de quitter le pays. On le sait, le président américain ose généralement tout, et c'est même bien souvent à cela qu'on le reconnaît. Hier, 5 jours seulement après avoir mis le feu aux poudres au Moyen-Orient, Donald Trump avait choisi de se poser rien de moins qu'en faiseur de paix. Lors d'une allocution très attendue d'une dizaine de minutes seulement, le locataire de la Maison-Blanche a mis de côté ses menaces explosives, même s'il est resté ferme, en revanche, sur les sanctions économiques imposées à la République islamique. Pour autant, l'essentiel de la partition reste sans doute encore à être joué, en l'occurrence, et dans l'immédiat, c'est surtout l'Irak qui est devenu aujourd'hui le principal terrain de l'affrontement entre Washington d'un côté et Téhéran de l'autre. Autant dire qu'ils étaient nombreux et impatients hier à suivre sur place l'allocution du président américain, comme ont pu le constater à Bagdad nos envoyés spéciaux Gilles Gallinaro et Omar Waman.
Dans les rues de Bagdad, le soulagement est palpable. Bassam, un policier de 36 ans, était hier soir devant sa télévision.
Ce que je retiens de l'allocution de Donald Trump, c'est une volonté d'apaiser la situation au Moyen-Orient. Et ça me réjouit.
En quelques minutes, les Irakiens sont passés de l'angoisse à une sérénité précaire. Najem, un chauffeur de taxi, n'a rien raté du discours du président américain.
L'allocution de Trump était très froide, mais il n'y avait pas de colère, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de guerre. Le peuple irakien veut vivre en paix, il se fiche de Trump et de l'Iran.
Car les Irakiens ne veulent pas d'une guerre qui n'est pas la leur. Baïda a 4 enfants, c'est à eux qu'elle a pensé en regardant Donald Trump.
Parce que c'est l'avenir de mes enfants qui est en jeu. Moi, je n'ai connu que la guerre, contre l'Iran, contre le Koweït. J'ai vécu l'embargo, la fin du régime, et récemment Daesh. Mon mari a été tué par Al-Qaïda.
Rassurés par les mots du président américain, les Irakiens sont toutefois conscients qu'une guerre peut éclater à tout moment.
Retour en Iran à présent, au lendemain, cette fois-ci, du crash près de Téhéran d'un avion de ligne ukrainien qui a fait 176 morts. On en connaît désormais un peu plus sur les circonstances de cette catastrophe. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Selon les premiers éléments de l'enquête iranienne, il semble que le Boeing 737 avait fait demi-tour après un problème, probablement un incendie à bord de l'appareil.
Oui, ce sont en tout cas de premiers éléments de l'enquête de l'aviation civile iranienne qui commence à filtrer. Cet incendie observé à bord de l'avion aurait gagné en intensité. L'appareil était donc en flammes alors qu'il était encore en vol. Il a changé de direction et reprenait le chemin de l'aéroport lorsqu'il s'est écrasé. Les enquêteurs iraniens s'appuient sur les témoignages de plusieurs personnes, des témoins oculaires au sol et, semble-t-il, des passagers d'un avion qui volait au-dessus du Boeing. Mais le pilote n'a transmis aucun message radio faisant état de circonstances exceptionnelles. Le Boeing a disparu des écrans radars après 2 minutes de vol à peine et les questions restent nombreuses ce matin, notamment sur l'origine du sinistre. Pourrait-il s'agir d'une défaillance technique ? L'appareil âgé d'à peine 3 ans venait de subir un contrôle d'un acte terroriste à l'intérieur de l'avion. L'Ukraine souhaite que toutes les pistes soient examinées. Celle d'un missile a semble-t-il été écartée. Mais l'enquête s'annonce délicate, compliquée bien sûr par les tensions très élevées entre Washington et Téhéran. L'Iran qui refuse de remettre les boîtes noires aux constructeurs Boeing comme aux États-Unis. Des boîtes noires qui seraient en outre endommagées selon l'Ukraine. Des enquêteurs ukrainiens ont eu l'autorisation d'assister aux investigations. Ils sont arrivés tôt ce matin en Iran, l'Ukraine qui a décrété un jour de deuil national.
Merci Marie-Pierre Véraud. Après 3 ans et demi de blocage à Westminster, les députés britanniques doivent donner aujourd'hui leur feu vert au Brexit le 31 janvier prochain. Et la majorité écrasante dont dispose désormais Boris Johnson depuis les dernières élections législatives laisse peu de doutes quant à l'issue de ce vote, en témoignent d'ailleurs les derniers débats expédiés en quelques séances seulement, malgré la complexité du sujet et les enjeux historiques, ce qui n'empêchera pas en revanche d'ouvrir ensuite une page blanche ardue à remplir dans les futures relations déjà tumultueuses entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Comme chaque jeudi jusqu'aux élections municipales, nous dressons les enjeux d'une ville et aujourd'hui direction Bordeaux avec vous Frédéric Seys, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors historiquement et plus exactement depuis l'après-guerre, la municipalité de Bordeaux penche à droite avec d'abord Jacques Chaban-Delmas, puis Alain Juppé. Mais pour ce scrutin, Frédéric, eh bien, il apparaît beaucoup plus difficile d'identifier politiquement les candidats, tant ceux-ci semblent catégoriquement vouloir refuser les étiquettes.
Oui, écoutez, par exemple, Thomas Cazenave, le candidat du parti d'Emmanuel Macron, il vient de distribuer son tract à une électrice sur un marché de Bordeaux et on se permet cette petite question.
Madame, vous sauriez situer politiquement Thomas Cazenave ?
Eh ben, je cherchais.
Alors, où est le logo sur ce tract ?
Si, regardez. Il est là ? En marche. Avec la République en marche.
Vous voyez, ben, c'est discret, hein ?
Oui.
Non, c'est discret. 2 initiales au dos du document, EM comme En Marche, en tête du tract, ce simple slogan « Renouveau Bordeaux ». Alors le candidat macroniste craint-il une contagion de l'impopularité qui touche l'exécutif ? Non, répond Thomas Cazenave.
La réforme des retraites, c'est un engagement du président de la République aussi quand même. Et donc moi je vois aussi beaucoup de gens, je vois les deux, hein, qui disent « Oh là là, cette réforme », et d'autres qui disent « Ne lâchez rien, mettez en œuvre la réforme ».
Alors il est vrai que les partis politiques sont désormais l'institution la moins appréciée des Français. Chez les autres candidats, le réflexe est le même. Interrogé par exemple le candidat adoubé par Alain Juppé, il s'appelle Nicolas Florian et vous aurez du mal à lui faire dire le nom de son parti, à savoir les Républicains.
Oui, non, moi j'ai toujours été de centre-droit, j'ai toujours été juppéiste, je suis gaulliste. Hein. Quand on s'adresse à nos concitoyens, c'est pas l'étiquette qui joue. Et puis moi je veux pas être sous la tutelle d'un parti politique, tout simplement. Et quand il s'agit de faire une école ou une crèche, elle est rarement de droite ou de gauche. On l'a fait, on l'a fait pas.
Mais vous êtes LR.
Ah mais moi j'ai des convictions et j'ai une carte politique. Je ne participe plus hein, à la vie du mouvement. Moi je crois beaucoup à l'ancrage territorial, plus que dans un corpus, j'allais dire, d'appareil politique.
Et cette pudeur n'est pas vraiment différente à gauche. Pierre Urmic, soutenu par Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, se présente simplement, je cite, en « candidat ». De l'écologie, cacher ces partis politiques que je ne saurais voir.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer ces élections à Bordeaux, invité de la rédaction aujourd'hui, Vincent Tibéri, professeur des universités et délégué de recherche de Sciences Po Bordeaux, en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Gironde. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et toujours à mes côtés pour vous interroger, Frédéric Seys. Une première question, monsieur Tibéri, comment analysez-vous cette frilosité visiblement donc des différents candidats, on vient de l'entendre, à assumer une quelconque étiquette politique?
Bordeaux a été qualifié par deux de mes collègues en 2017 comme la capitale de la terre du milieu. Donc effectivement, à l'époque, Emmanuel Macron avait plutôt bien réussi et puis les candidats de droite de l'époque, notamment autour d'Alain Juppé, étaient clairement marqués plutôt par le centre-droit que la ligne de Laurent Wauquiez. Et puis surtout, en fait, derrière, il faut bien voir effectivement que et Thomas Cazenave face à la République en marche et Nicolas Florian, effectivement, sont soutenus par des organisations partisanes qui elles-mêmes sont clairement mal vues et sont en souffrance.
Vincent Tibéri, on le disait, depuis l'après-guerre, deux maires de droite, Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé. Il n'y a même jamais eu de deuxième tour depuis l'après-guerre, tant cette domination était écrasante. Pourquoi ce conservatisme bordelais, si l'on peut dire? Et est-ce que cela peut changer cette fois-ci?
Alors là, clairement, on voit bien que les choses pourraient effectivement changer. D'abord parce que on en a fini avec le maire des Murges qui était Alain Juppé. Et donc, depuis un bon moment, hein, il y avait une forme de disjonction entre l'élection locale et l'élection nationale. C'est-à-dire que Bordeaux pouvait très bien voter majoritairement pour François Hollande et puis ensuite les députés socialistes. Et puis, même chose hein, pour Emmanuel Macron en 2017. Et dans le même temps, la droite locale pouvait maintenir une très forte résistance, voire même une hégémonie. Il faut se souvenir qu'un Juppé a été élu avec 60% des voix en 2014. Mais néanmoins, il y a aussi une forme de... Il y a deux choses importantes. D'abord, il y a un électorat qui est en train de changer. Et puis surtout, il y a possiblement aussi une forme d'usure. C'est-à-dire que Nicolas Florian fait certes beaucoup mieux que la liste de François-Xavier Bellamy de 2014 en 2019.
Nicolas Florian qui est crédité de 33% dans les sondages.
Tout à fait. Mais on est donc très très loin du score qu'avait obtenu Alain Juppé en 2014, c'est-à-dire plus de 60%. Donc il fait mieux que les Républicains, il fait moins bien que sa figure tutélaire. Et dans le même temps, eh bien, les électeurs En Marche qui ont voté pour En Marche, qui ont voté En Marche aux européennes, semblent pour l'instant mal se reporter sur Thomas Cazenave. Donc il y a à la fois une bonne nouvelle pour Nicolas Florian qui, a priori, le laisse encore un peu en tête et donc pourrait lui permettre d'être compétitif pour sa réélection, mais dans le même temps, il faut bien voir que c'est un électorat qui finalement est en train de bouger. Et donc Bordeaux, de ce point de vue-là, est devenu une ville ouverte électoralement parlant.
Et le paysage à gauche est d'ailleurs très intéressant aussi à Bordeaux. Il y aura l'union dès le premier tour entre les écologistes, les socialistes et les communistes. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, Vincent Tibéri, c'est que cette fois, les écologistes seront tête de liste et le Parti Socialiste en simple renfort. En 2014, c'était l'inverse, le PS d'abord. Qu'est-ce que cela traduit? Est-ce que c'est un changement de domination au sein de la gauche?
Alors, c'est clairement un changement de domination au sein de la gauche locale, hein, qui, grosso modo, n'avait plus de leader naturel du côté du Parti Socialiste. Vincent Feltès a été désolidarisé du parti. Alain Rousset, qui reste la figure majeure hein, de la vie politique locale pour la gauche socialiste, n'est clairement pas en première ligne sur les municipales. Donc, quelque part, il y avait un vide d'un point de vue partisan. Et ensuite, Bordeaux ressemble, de ce point de vue-là, à ce qui se passe dans d'autres grandes villes. C'est-à-dire qu'on voit que les candidats écologistes sont en passe de faire des très bons scores, a priori à Lyon, a priori à Paris, mais également à Bordeaux. Et donc, quelque part, là, Bordeaux semble rejoindre un mouvement national plus global, favorable, en tout cas dans les centres urbains, aux partis écologistes. Donc, il y a possiblement un changement politique en train de se dessiner. Et donc, la continuation de la difficulté du PS à reprendre son souffle après le mandat clairement calamiteux du point de vue électoral de François Hollande.
Est-ce que cela signifie qu'on s'oriente vers une triangulaire, le sortant, le jupéiste Nicolas Florian, contre le macroniste Thomas Cazenave, et donc cette alliance de la gauche et des écologistes, selon vous, Vincent Tibéri ?
Alors, en tout cas, sur les deux sondages qui ont été faits sur Bordeaux, a priori, effectivement, la gauche sera au second tour, donc il y aura un second tour. Pour l'instant, le bénéfice est plutôt favorable à Nicolas Florian. Et après, se pose effectivement la question pour Thomas Cazenave de provoquer une triangulaire ou pas. S'il provoque une triangulaire, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la gauche et une mauvaise nouvelle pour la droite.
D'un mot.
Mais surtout, le vrai problème pour Thomas Cazenave, c'est que ses électeurs ressemblent quand même beaucoup sociologiquement parlant et en termes de priorité à ceux de Nicolas Florian. Donc quelque part, il y a une lutte de leadership au centre et à droite, mais les électeurs sont a priori les mêmes.
Merci Vincent Tibéri, professeur, je le rappelle, des universités, délégué de recherche de Sciences Po Bordeaux, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Frédéric Seyss. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Globalement, maussade et faiblement pluvieux. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé.